que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Le monde entier célèbre ce lundi, 3 mars, la journée mondiale de la protection de la vie sauvage. La RDC, pays riche en biodiversité, enregistre à plusieurs espèces en voie de disparition. Les espèces animales sont tuées par des populations pour leur survie et d'autres par des braconniers. Alors comment donc assurer la protection des espèces animales et végétales de la République démocratique du Congo? Alors pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par, on parle de la journée mondiale de la vie sauvage. C'est quoi la vie sauvage?
En fait, merci. La vie sauvage, s'il faut qu'on en parle, c'est pratiquement l'ensemble de tout ce que nous avons dans notre pays, des espèces de faune et de flore. En fait, cette grande biodiversité, cette riche biodiversité que notre pays regorge et qu'on retrouve dans cette nature qu'on appellerait la nature protégée et non protégée. Et l'ensemble de ces animaux-là, de ces arbres, de toutes ces espèces qui contribuent à l'existence de l'homme, ça fait partie de cette vie sauvage.
Voilà. Et on a parlé de la biodiversité. C'est quoi la biodiversité?
C'est encore un terme un peu plus scientifique. En fait, d'une manière générale, la biodiversité pourrait se retrouver même en dehors de la vie sauvage. Tout ce qui les différencie, c'est ça. Mmh. C'est que la biodiversité est beaucoup plus englobalisante que la vie sauvage. Ici, c'est juste en dehors de tout ce qui est en dehors des endroits, des espèces, disons des endroits qui sont en dehors de forêts, en dehors de tout ce qui reste pas tout à fait sous contrôle de l'homme et qui pourrait être comme abandonné en dehors du train commun des hommes, de la vie commune des hommes. En fait, on a voulu essayer de distinguer cette même ces espèces de faune et de flore qui se retrouveraient un peu partout, rentrent dans ce qu'on appelle la biodiversité.
Voilà. Alors aujourd'hui, en RDC, on signale qu'il y a des espèces en voie de disparition. Par exemple, des espèces animales, lesquelles sont menacées aujourd'hui et pourquoi?
Non, nous en avons plusieurs pratiquement. Nous savons qu'il y a plus de 250 espèces dans notre pays qui sont pratiquement menacées. Elles sont menacées. Pourquoi? Parce que effectivement, elles font, pouvons dire, elles constituent une attraction, un intérêt autre par rapport à d'autres activités humaines. Elles sont menacées par le braconnage. Elles sont menacées par les différents trafics. Elles sont menacées pour d'autres fonctions des hommes.
Quelles sont les espèces, par exemple, les plus menacées aujourd'hui?
Les plus menacées aujourd'hui et surtout actuellement, par exemple, l'éléphant. Le rhino, nous les avons déjà, les rhinocéros, est déjà une espèce qui est presque totalement terminée. Nous avions l'espèce de rhinocéros blanc du Nord, qui est une espèce endémique en RDC, et qui aujourd'hui est presque totalement disparue. C'est pour des raisons scientifiques que nous n'avons pas encore annoncé sa disparition totale, mais sur le plan des faits, nous ne pouvons plus justifier même pas de la présence d'un seul individu.
Du rhinocéros blanc.
Des rhinocéros blancs du Nord, qu'on retrouve dans le parc national de Garamba. Cette espèce, à travers le monde, il n'y en avait que maintenant au Congo. Et vous vous rendez compte que lorsqu'elle disparaît de la RDC, ça signifie qu'elle disparaît totalement du monde, à part le quelques spécimens de deux individus qui se retrouveraient dans des eaux en Tchéquie et qui ne peuvent même plus constituer un noyau pour la survie de l'espèce. Et lorsque vous regardez pourquoi il est menacé, ou disons elle est menacée, c'est parce que les gens attribuent des vertus autres à ses cornes. Et aujourd'hui, juste un kilo de corne de rhino vous va jusqu'à 75 000 livres, presque 100 000 euros et plus de 100 000 dollars.
Ça, c'est un trafic intéressant pour ces gens-là.
Un trafic et qui s'est fait maintenant sur le prix du sang humain. Parce que lorsque ces gens arrivent, c'est avec des très gros moyens. Ça fait ravage aujourd'hui en Afrique du Sud. Chez nous, c'est terminé. C'est avec de gros hélicoptères, c'est avec de gros moyens de guerre qu'on vient attraper ces rhinos et on enlève facilement le corne.
Donc, pour les amener en Afrique du Sud.
Non, bon, pour les tuer et prendre. Les tuer et les prendre. L'Afrique du Sud est plus menacée parce que c'est le pays où reste encore, des individus un peu plus, des effectifs un peu plus grands par rapport à d'autres pays. Mais partout, le Kenya connaît le même devoir dans ce trafic de rhinos blancs, des rhinos blancs ou noirs, ce sont des rhinos qui sont un peu généralement dans tous les autres pays. Il n'y a que la RDC qui avait l'espèce de rhino blanc du Nord qui était endémique et spécifique pour la RDC.
Et c'est une perte énorme pour le pays.
C'est perte énorme et énorme. Et ça, ça doit pouvoir nous interpeller. C'est pourquoi pour nous, la RDC, une journée comme celle-ci, c'est une journée qui a tout son pesant d'or et qui est une journée capitale, qui permet de sensibiliser. Et en cela, nous ne pouvons que remercier Radio Okapi qui a pensé effectivement à pouvoir tirer la sonnette d'alarme en cette journée et essayer d'interpeller le responsable à tous les niveaux. Parce qu'il en va de soi de décideurs au dernier de Congolais et même ceux des étrangers qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie, qu'on puisse réellement prendre en conscience qu'il est grand temps de penser à cette espèce qui constitue une partie du maillon de la survie de l'espèce humaine. Parce que sans ces espèces aussi, l'espèce humaine serait menacée de disparition.
Voilà, il y a toujours une corrélation entre la vie sauvage et la vie humaine.
C'est toute une chaîne de survie. C'est parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. C'est ce qui fait que, effectivement, l'ignorance et le manque d'information, comme on l'a dit, l'ignorance tue. Et c'est ça, l'homme tue.
Voilà. Il y a aussi, vous avez parlé de plus de 250 espèces menacées en RDC. Il y a également les éléphants et même les okapis qui ont été.
Là, je prends les éléphants et les okapis. Vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique, les éléphants sont probablement l'aire de répartition et les plus grandes dans la partie d'Afrique centrale et l'Afrique australe, effectivement l'Afrique de l'Est et vers l'Asie, les Indes et autres. Donc, il n'y en a pas assez au monde. Et les niveaux du braconnage de l'éléphant, parce que aussi l'ivoire a pris presque le même fait produisant les mêmes causes produisant les mêmes faits et ainsi de suite, les mêmes faits produisant les mêmes causes. Le point d'ivoire ou l'ivoire lui-même est devenu aujourd'hui un produit très alléchant au niveau du marché asiatique. À Kinshasa, l'ivoire se négocie déjà à 600 dollars le kilo. Et si dans 10 ans, il n'y a rien qui est fait pour arrêter ce braconnage,
on va perdre les éléphants.
N'aura plus aucun éléphant. L'allure du braconnage aujourd'hui, l'implication de plusieurs personnes au niveau de ce braconnage nous créera des problèmes énormes. Et nous devons en être conscients. Parce que le niveau de recherche de gains est devenu très très énorme. Et nous croyons qu'il est plus que temps que tout le monde soit sensibilisé, surtout nos amis qui sont dans les organes de loi.
On va y revenir, Monsieur Cosma Wilungula. Je reviens à cette question. Lorsque les espèces animales et végétales ne sont pas protégées, quels sont les dangers que court le pays?
En fait, lorsqu'elles ne sont pas protégées, c'est que tout le monde y accède. Vous savez, le mécanisme de protection, lorsque tout ce qui est richesse, tout ce qui est ressources, tout ce qui est denrées rares devra pouvoir être protégé parce que c'est tout le monde qui veut accéder à ça. Qui ne voudrait pas être riche? Qui ne voudrait pas manger comme il veut? Qui ne voudrait pas trafiquer tout ce qu'il peut faire? Et toutes ces espèces-là constituent des ressources à plus grande facture. Et ces ressources à plus grande facture font courir tout le monde. Regardez, si vous prenez des espèces de la flore, la Phromosia, les Prunus africana et autres, ce sont des espèces d'arbres qui sont très recherchées au monde que nous avons. Et aujourd'hui, c'est tous les exploitants industriels du bois qui voudraient bien accéder à la Phromosia. Si on ne le protège pas, demain il disparaît. Prenons des espèces de faune, comme nous venons de le dire, les éléphants, les okapis, une peau d'okapi seule coûte déjà 40 000 dollars lorsque ce braconnier a tué un okapi. Il a réussi à sécher cette peau-là et il peut la vendre pour des décorations en Asie.
À 40 000 dollars.
40 000 dollars. Alors vous vous rendez compte du degré d'attraction que cela apporte, et c'est ça le problème. C'est que lorsqu'on parle de la protection, c'est parce que nous voulons réellement répondre à un fait réel. Nous devons voir, vivre et bénéficier de ces espèces autant que les générations futures. Nous ne pourrons pas laisser que ça soit seulement pour nous aujourd'hui et demain, ceux qui arrivent ne peuvent plus jouir et voir. Comme nous avons l'histoire des mammouths, on en parle scientifiquement, mais personne ne pourrait plus le voir. Non, je crois qu'il est grand temps que nous ayons la responsabilité de protéger pour les générations futures.
Voilà. Nous avons un premier auditeur en ligne qui nous appelle de Kikwit dans le Bandundu. Vous voulez également participer à cette émission. On parle de la protection des espèces animales et végétales de la RDC. Composez le 081-890-63-94.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiokapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiokapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiokapi.net.
Comment protéger les espèces animales et végétales de la République démocratique du Congo? Ogi Bendelo, vous êtes à Kikwit, bonjour. Ogi, bonjour. Voilà, je crois qu'il est distrait, il y a un endroit où il y a beaucoup de bruit. On va tenter de le relancer tout à l'heure. Alors, Monsieur Cosma, je reviens à vous. On l'a dit peut-être tout à l'heure, chaque espèce animale joue un rôle important dans la biodiversité. Vous confirmez cela?
Oui, chaque espèce animale, je pourrais partir d'un constat très simple. Qui a planté la forêt? Aujourd'hui, nous avons la plus grande forêt en Afrique, mais qui l'a plantée?
On peut dire que c'est Dieu.
Que les hommes ne peuvent pas comprendre. Dieu a mis un mécanisme naturel au travers de toutes ces espèces pour qu'on puisse avoir la régénération ou la régénérescence de toutes ces forêts. Vous vous rendez compte quand vous prenez tous les grands mammifères qui mangent, qui sont des herbivores, qui mangent aussi de grains, et lorsqu'ils arrivent à enlever leur matière fécale, partout où ils passent, ce sont des forêts, des arbres, des plantes qui poussent. Déjà, les oiseaux, le singe, le primate et autres, nous avons 3 sur les 4 grandes espèces de singes. Aujourd'hui, maintenant, il y en a 5 parce qu'il y a une nouvelle espèce qui a été aussi cooptée comme grand singe. Nous avons tout le grand mammifère et nous avons tous ces oiseaux parce que nous avons cette grande et riche biodiversité. Elle contribue énormément à la régénération de notre forêt. Elle contribue énormément à ça. Il y a des espèces d'arbres qui ne peuvent pas pousser si les grains ne sont pas passés par l'estomac d'un animal. Et lorsque vous tuez ces animaux-là, effectivement, vous anéantissez la présence de ces types d'arbres. Oui. Et vous vous rendez compte que ces espèces ont énormément d'avantages dans la vie et dans la survie de l'homme. Et il y en a autant d'exemples de cette manière-là pour permettre ce que nous bénéficions réellement de toutes ces espèces de faune et de flore.
Voilà. Et pourquoi l'ICCN ne communique pas assez pour que la population puisse être sensibilisée et protéger l'environnement?
En fait, nous disons merci à Okapi. Nous croyons qu'il y a un problème de communication dans notre pays. Nous ne savons pas comment c'est fait. Parce que l'ICCN est disponible à communiquer, mais l'ICCN, les gens oublient, l'ICCN n'est pas une institution commerciale, c'est une institution scientifique et technique. Mais le coût de la communication en RDC, il est de ceux qui sont les plus élevés peut-être au monde. Et cela pose déjà un premier problème. Mais nous croyons que dans le temps que nous pouvons, nous essayons de communiquer. C'est vrai, nous sommes un grand pays, les organes, les institutions, les outils de communication sont tels qu'ils sont. On ne sait pas remplir partout, mais il est plus qu'important que tout le monde réalise que la conservation, c'est une affaire de tout le monde.
Voilà, c'est une affaire de tout le monde. Nous avons d'autres éditeurs. Andy Mabondo nous appelle de Lubumbashi, dans la province du Katanga. Andy, bonjour. Andy, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, je dis, par rapport à la conservation, comme le dit l'invité, et la politique que nous voyons ici au Katanga, des parcs privés, où les animaux sont en captivité ou en semi-liberté, que dira l'ICCN par rapport à cette conservation-là de la nature, par rapport aux parcs privés que nous voyons qui abondent ici au Katanga, sans les citer?
D'accord, merci. Magloire Paloukou, vous êtes à Beni, au Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour, chers confrères. Bonjour, pasteur Kotma Ouloula. Pasteur, c'est un constat et une question. On parle trop d'animaux, mais vous venez de parler de l'espèce végétale. Ici, avec les rebelles ADF dans le territoire de Beni, il y a toute une forêt qui est détruite. Ils ont installé beaucoup d'usines d'acide fabriqué, plusieurs choses, des bombes, et ça a détruit toute la nature. Ces arbres sont en train de partir. Votre bureau de l'ICCN est aussi détruit. Comment arriver à sauvegarder, en cette période de presque paix, cette espèce végétale qui est dans tous les territoires de Beni, 60 km carrés d'une forêt qu'il faut défendre?
Merci, Magloire. Nous avons un autre auditeur, Alphonse Boudril, à Ngbokolo, dans la province orientale, à Ituri. Alphonse, bonjour.
Bonjour, jeudi, bonjour à tous les auditeurs. J'ai quatre petites préoccupations à poser à notre invité. La première, est-ce qu'il faut protéger les espèces végétales nuisibles à la faune? Par exemple, je vous avais parlé d'une plante qui est apparue chez nous qu'on appelle Demila. Est-ce qu'il faut la protéger aussi? Deuxième question, est-ce que les gardes-parcs qui sont censés protéger la faune et la flore, est-ce qu'ils peuvent se nourrir des produits qui proviennent des parcs? Si oui, dans quelles circonstances? Troisième préoccupation, un agriculteur qui veut exploiter une étendue de 5 hectares par exemple, comment va-t-il faire pour protéger les espèces végétales? La dernière préoccupation que j'ai pour aujourd'hui, pendant la guerre par exemple, les militaires, même les avions bombardent par-ci par-là. Et à ce moment-là, les animaux et même les espèces végétales sont en danger. Alors, je voudrais savoir maintenant comment y remédier ou comment faire pour y remédier. Qui sera responsable de tout cela? Merci, Jody.
Bien, merci Alphonse et merci à tous les auditeurs qui ont appelé. Revenons au premier intervenant, Andy Mabondo de Lubumbashi. Monsieur Kosuma, il dit à Lubumbashi, il y a des parcs privés où les animaux sont en semi-liberté. Est-ce que c'est une meilleure façon de protéger, de sauvegarder les espèces animales et végétales?
Oui, je crois que Andy a raison, c'est une préoccupation majeure. En fait, le parc privé doit être aussi contrôlé et géré. La nouvelle loi qui vient d'être votée et promulguée par le chef de l'État, il n'y a pas un mois de cela, donne effectivement à l'ICCN le pouvoir de pouvoir suivre et de pouvoir veiller, surveiller et inspecter tous ces sanctuaires et autres parcs privés. Normalement, ils ne peuvent pas se créer sans qu'il y ait un travail scientifique qui fait d'avance. Parce que rien que le permis d'importation de ces animaux-là doit pouvoir être livré par l'organe de CITES. Et après une étude, nous sommes l'ICCN, l'autorité scientifique CITES, et on n'y a pas participé, on n'a pas été consulté pour savoir quel type d'animal, quelle espèce faut-il amener dans notre pays et dans telles conditions. Donc ça pose un problème. Et nous sommes en train d'inviter tous les responsables des différents parcs privés de pouvoir se mettre en ordre et avec l'État. Et à notre niveau, nous pourrions bien le conseiller et les amener à organiser leur contribution à cette conservation qui doit être rationnelle et beaucoup plus respectueuse des lois de notre pays. La réalité, c'est qu'il y a trop de choses qui se sont faites sans qu'on puisse mettre de l'ordre.
Et sans même passer par vos services.
Et sans passer effectivement par nos services, et ça crée un problème. Aujourd'hui, nous sommes dans une très très bonne discussion. C'est un exemple à suivre avec le gouverneur de Bandundu qui tient aussi à faire quelque chose. Et il a déjà déposé des dossiers chez nous. Nous accompagnons pour faire toutes les études jusqu'à la fin. Et nous croyons que nous en ferons autant. Au début, nous avions eu un contact avec le gouverneur du Katanga aussi, et même Jean-Claude Muyambu, qui a un autre parc au Katanga. Et nous devrions finaliser ce pourparler afin de leur montrer les dispositions légales et les impératifs scientifiques qui permettraient que leur parc réserve réponde réellement aux exigences, non seulement de la survie animale, mais aussi des effets par rapport aux espèces humaines. Parce que ça peut apporter des grands dangers même pour la survie de l'homme dans cette province.
Voilà, et Magloire de Béni parle des Adefnalou qui font des dégâts. De l'autre côté, il y a des espèces qui sont en danger, même vos bureaux sont saccagés. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour sauvegarder ces espèces en danger de l'autre côté?
Oui, en fait, aujourd'hui, par rapport à la question de Magloire, que je salue aussi en passant, que je connais très bien, nous croyons que ce qui est important, c'est d'arriver à trouver un appui réel, parce que l'ICCN n'est pas fait pour les guerres. En fait, nos forces armées congolaises, qui sont en appui à l'ICCN, continuent à nous aider. Nous les félicitons aussi pour cela. Et nous pensons que les forêts qui sont dans le Nord Kivu doivent être protégées. C'est une zone à relief montagné et qui, lorsque ces forêts sont détruites, effectivement, ça va apporter non seulement l'assèchement, mais aussi ce relief peuvent connaître des dégâts énormes. Parce que ces forêts constituent la consolidation de ce sol et de ces terres.
Alors, comment sauvegarder
On doit le sauvegarder, en fait, en assurant non seulement les parties qui ne sont pas dans les aires protégées peuvent être constituées en aires protégées afin de bénéficier de la protection de nos gardes-parcs, parce que nous avons une protection qui est armée pour certaines étendues. Oui. Et nous avons également l'appui de la communauté internationale dans la protection de ce forêt que nous sommes en train de faire. Mais nous avons aussi un programme de reboisement. Ce qu'il faut faire effectivement dans le Nord Kivu, c'est arriver à amplifier le programme de reboisement. Nous l'avons avec l'Union européenne, nous l'avons avec la Banque africaine de développement dans cette partie de la République. Et nous croyons que le plus tôt possible, dans les contacts que nous avons avec l'université de Graben et autres, nous croyons que d'ici là, nous pourrons passer à un mécanisme, à un processus de reboisement dans cette partie. Mais nous devons consolider beaucoup plus la sécurité. C'est tout ce qui est le grand danger. C'est ça, le niveau qu'a atteint l'insécurité dépasse les capacités de l'ICCN.
Donc, pour protéger, sauvegarder ce qui reste, il faut renforcer la sécurité.
La sécurité. C'est vraiment la solution principale.
Idriss nous appelle de Kinshasa. Bonjour. Idriss, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, moi je veux parler à propos de ce que monsieur l'invité vient de parler par rapport à la protection de la nature.
Oui.
Dernièrement, vous avez parlé de l'exploration au niveau des parcs de Virunga. Là aussi, il y a des espèces qui sont en danger, notamment les gorilles blancs, qui courent un grand danger de disparition. Maintenant, qu'est-ce que l'ICCN propose ou quelles sont les précautions qu'ils ont prises pour éviter ces oiseaux, parce qu'il y a des espèces qui courent des gros dangers de disparition. Quels sont les mécanismes que l'ICCN a déjà pris pour protéger ces espèces?
D'accord. Merci.
Deuxièmement.
Oui, rapidement.
À propos des agrumes que nous voyons ici, qui passent tous les jours ici à Kinshasa, venant des bois Congo ou d'ailleurs. Maintenant, ces agrumes-là n'ont pas le droit d'être protégés au Congo parce que ce sont aussi les forêts de la RDC qui courent un grand danger.
D'accord. Merci Idriss. Augustin Gombo, vous nous appelez de Mbandaka. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Augustin?
Oui, je voudrais demander à notre invité si notre Parlement a voté des lois en rapport avec l'environnement. Si oui, lesquels par exemple?
Bien, merci Augustin. Nous avons en ligne un autre auditeur, Aouna depuis Dungu, en province orientale. Aouna Samba, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute, Aouna.
Oui, j'avais une préoccupation à suggérer par rapport à la conservation de la nature, à l'ADG qui est notre invité aujourd'hui là.
Oui.
La préoccupation est que, pour le, à ce qui concerne le parc national de la Garamba, toute la partie de la frontière nord du parc national de la Garamba est vide, là où il n'y a même pas de, de militaires, tout ça, et que tout le monde peut entrer au pays et dans le parc national pour faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, braconnage et consorts, tout ça. Mais ça fait plus d'une décennie, nous avons la présence des LRA dans le parc national de la Garamba, nous avons aussi autour du parc la présence des éleveurs Mbororo, nous avions aussi le, dans les années 90 les SPL qui sont entrés. Et maintenant, comment on va protéger cette partie-là du parc national de la Garamba qui est vraiment, qui était vraiment un patrimoine mondial et un patrimoine national trop important pour le Congo. Et aussi, autre préoccupation était la présence des éleveurs Mbororo qui sont aussi en train de faire le braconnage, là où ils passent avec leurs animaux, tout le bio, la biodiversité est détruite par terre et tous les herbes sont détruits et ils sont aussi en train de causer des feux de brousse. Comment faire à ce que cette partie nord soit complètement protégée et la disparition de postes et de patrouilles dans le domaine de chasse à Zandé, qui ça fait plus de 10 ans, il n'y a pas de postes de patrouille de ce côté-là. C'est ça ma préoccupation.
Merci Aruna Sambia depuis Dungu. Revenons d'abord à Alphonse Anetouri qui a parlé d'une espèce nuisible appelée 2000 ans et une espèce végétale nuisible. Est-ce que vous êtes au courant de ça, monsieur Cosma?
Oui, en fait, il y a suffisamment ce qu'ils appellent espèces nuisibles. En fait, il y a des types d'espèces qui peuvent être envahissantes, qui peuvent détruire effectivement les autres espèces.
Oui.
Et on a plusieurs procédés pour pouvoir le protéger. On le croit souvent nuisible par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce que l'on croit savoir. Mais les expériences des scientifiques montrent souvent qu'ils peuvent aussi être utilisés dans d'autres cas. Donc je crois que pour les cas qui sont de leurs espèces, on pourrait bien envoyer nos équipes de scientifiques qui pourraient voir quels sont les éléments détruits, si ce sont les autres arbres qui sont détruits, si ce sont les autres types de plantes qui sont détruits, comment on peut effectivement les enlever. Ça fait une préoccupation. Nous avons suffisamment des débats scientifiques à ce sujet-là.
Voilà.
Donc je promettrai à notre ami Alphonse qu'on pourrait bien vérifier et voir quels étaient les dégâts, les conséquences qu'il y a et si cela ne peut pas être approprié pour d'autres types d'espèces qui ne peuvent pas être détruits par ce type de plantes.
Voilà, il dit encore, les gardes-parcs peuvent-ils se nourrir des...
Non,
ça,
c'est ce que nous appelons, c'est une abomination pour nous. C'est le plus grand péché. Un garde-parc ne peut pas se nourrir de produits du parc parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un braconnage interne qui permettrait qu'on se nourrisse des produits du parc. Mais nous avons, nous, les éléments, les alternatives que nous-mêmes nous avons utilisées.
Vous leur apportez des rations alimentaires.
On leur apporte des rations, on leur apporte des éléments qu'il faut pour leur vie. Il n'y a pas que les viandes sauvages qui ont la vitamine animale, elle est la même, autant pour l'antilope que pour la chèvre.
Voilà. Et il parle aussi des agriculteurs, quelqu'un qui exploite 5 hectares dans la forêt, est-ce qu'il ne détruit pas la forêt? Il y a également l'activité humaine, l'agriculture qui menace la forêt.
Oui, en fait, et surtout l'agriculture telle qu'elle est pratiquée chez nous, qui est une agriculture surbrûlée, et où on coupe et tout, ça pose des problèmes. Les gens devraient trouver un accompagnement de nos amis des agronomes et les moniteurs agricoles comme il était pendant des années passées pour dire quel type de culture pouvait être placée dans tel endroit sans qu'on connaisse toute la destruction. Et dans ces hectares, il y a aussi de la biodiversité. Je pense que la conservation devra devenir une culture. Vous pouvez trouver des espèces, même dans votre champ, et que vous pouvez sauvegarder et protéger en tant que citoyen, parce que ça permet de vivre.
Voilà. Et il parle aussi des militaires qui bombardent avec tous ces conflits armés. Il y a des bombardements dans les parcs, et tout ça, ça détruit l'environnement.
Ah
ça
oui,
détruit les espèces.
Ça, c'est pratiquement, c'est comme disons, c'est l'insécurité. Nous croyons que les guerres ne sont pas bonnes partout, même pour la protection, même pour la conservation. Il faut qu'on y mette vraiment fin pour qu'il n'y ait pas ce type d'armes qui sont utilisées avec leurs effets. Et nous savons tout ce qui est dedans, les pesticides et autres dangereux pour les espèces. C'est réel, c'est très dangereux. On ne peut pas accepter ces choses.
Voilà. Avant de répondre aux questions des autres auditeurs, on va accueillir Edgar Mamba qui nous appelle des Kavinyonge, au Nord Kivu. Edgar, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, c'est Katere Kamambaskar à Tavignon, qui est au bout du lac Édouard, dans l'enclave, c'est dans le parc national de Virunga. C'est un village enclavé dans le parc national de Virunga.
Oui.
Ma préoccupation est qu'il y a une hostilité entre les gardes du parc et la population. Donc, il n'y a pas une collaboration. On a créé un dialogue, soi-disant comité, comité de dialogue entre l'ISSN et la population. Mais il n'y a pas de suivi. Il y a des fois où les gardes du parc, en collaboration avec les braconniers, abattent des éléphants pour profiter les ivoires. Mais quand la population voulait donner les rapports, donc il n'y a pas de suivi, il y a souvent, on protège même les concernés.
D'accord, donc on retient que certains gardes parcs collaborent avec les braconniers pour abattre certaines espèces au parc Virunga.
Oui.
Bien, merci pour cette information. Et vous avez parlé de l'hostilité entre les gardes parcs et la population. Qu'est-ce qui est à la base de cela?
Il y a des fois où c'est déjà dit par la loi de l'ISSN, les bois morts, on en profite, nous qui sommes dans l'enclave. Mais il y a des fois où, quand on voulait chercher des bois morts, on se rencontre avec les gardes du parc, et là, il y a copie. On abat, on viole les femmes. D'ailleurs, le directeur là, le pasteur qui est devant vous là, était déjà venu ici chez nous. Il a laissé une enveloppe de $1,000 pour soigner les femmes violées par les gardes parc. Mais jusqu'à il n'y a pas de suivi. C'était sa première et sa dernière fois d'arriver ici chez nous. Il n'y a pas de suivi. Vraiment, il y a une hostilité entre la population et les gardes parc.
Merci.
Quand on trouve le premier, on peut même s'apprendre à faire des coups.
Merci Edgar. On va aller rapidement. Idriss de Kinshasa vous a posé la question. Il a parlé des gorilles blancs qui sont menacés au parc de Virunga. Il a parlé aussi des agrumes, voilà, les exploitants de bois. Est-ce que cela ne menace pas aussi les espèces végétales?
Oui, en fait, quant à ce qui concerne le gorille, en fait, ce sont les gorilles de montagne que nous avons au parc de Virunga dans la partie sud et les gorilles de plaine dans la partie nord vers Tchabirimo. Nous avons un mécanisme de protection de gorilles qui est très, très important, très utile. Oui. Et nous pourrons dire que dans le cadre de la transfrontalière entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, nous avons mis en place un mécanisme avec des patrouilles mixtes. Aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer que les gorilles sont totalement protégés. Même pendant la guerre de M23 et autres, même pas un seul gorille n'a été tué au travers de cette guerre-là. Parce que la prise de conscience à ce niveau est très très grande. Le gorille, ça fait le produit assez productif, excusez-moi, technologie pour le Rwanda et l'Ouganda et même pour nous-mêmes, la RDC. Donc le mécanisme de protection des gorilles sont vraiment en place. Nous avons des systèmes de patrouilles mixtes, le garde du Rwanda et de la RDC, le garde de l'Ouganda et de la RDC. Nous circulons tout autour des frontières et nous enregistrons tous les mouvements de gorilles. Plus de 100 gardes en RDC sont consignés rien que pour la protection des gorilles de montagne.
Voilà, il parle des grumes, l'exploitation de bois.
Effectivement, l'exploitation de bois, comme vous savez, ça fait toute une législation qui est là-dessus. Il y a des personnes qui ont réellement des concessions d'exploitation de bois qui sont des concessions légales. Donc, et qui peuvent bien exporter leurs grumes.
Souvent, le reboisement pose problème.
Le reboisement pose problème. Ça, c'est la gestion, effectivement, de cahiers de charges institués entre le ministère de l'Environnement et ses exploitants. Mais nous savons que mes collègues qui sont au niveau du ministère ont pratiquement toutes les dispositions là-dessus. Et nous pensons que le secteur, c'est vrai qu'il y a une fraude aussi importante là-dessus, mais aujourd'hui, des mécanismes sont mis en place pour essayer d'arrêter, de freiner cette fraude. Si on voit de crimes maintenant, ça pourrait être en grande partie ceux qui sortent dans des conditions normales, à part effectivement le décret de fraude qui existe toujours.
Bien, revenons, passons maintenant à Augustin qui parle du Parlement. Est-ce que le Parlement a déjà voté des lois pour protéger les espèces animales et végétales?
Les lois dans ce cadre, je disais, il y a juste un mois de cela, pendant cette session qui vient de s'achever, le Parlement et le Sénat congolais ont voté la loi sur la conservation de la nature, qui est la plus importante de loi en cette matière. Mais bien avant, déjà en 2013, 2012 même, on avait eu la loi cadre sur l'environnement qui a été votée. Et ce sont toutes les lois importantes. Et maintenant, je crois que la loi sur les hydrocarbures également constitue une autre loi, quoique étant un peu différente des autres. Mais les deux lois sont les plus importantes dans le cadre de la conservation de l'environnement, la conservation de la nature dans notre pays.
Voilà, Aouna Dedungu nous révèle que la partie nord du parc national de la Garamba n'est pas protégée. Il y a les rats, les éleveurs moraux aussi qui sèment du désordre dans cette partie du pays. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Effectivement, Aouna a raison de le dire. Nous avons un problème. Vous savez, le parc de la Garamba a un effectif de au moins 180 gardes. La partie nord, c'était la partie qui était le fief de la LRA. Et la réalité qu'il évoque, elle est là. Le parc de Garamba est frontalier au parc de l'Antoto dans le Sud-Soudan. Et le parc de l'Antoto et de Garamba, la frontière, elle est pratiquement pas un mur ou quoi que ce soit. Donc, il y a l'accès facile. Et nous n'avons pas de poste de patrouille. Je comprends bien qu'il connaît effectivement ce parc de Garamba. Aujourd'hui, nous sommes dans des dispositions compte tenu de l'appui de nos forces armées congolaises et du climat de paix qui est en train d'arriver dans cette partie de la République. La nouvelle direction du parc est en train de mettre en place un programme de surveillance du parc qui va effectivement instituer le poste de patrouille dans cette partie. Il y en avait eu le dernier, c'était pendant le temps de la garde présidentielle, la DSP à l'époque, qui avait un poste à la frontière qui empêchait même les Mboro à cette époque de pouvoir revenir chez nous.
Alors, monsieur Kosuma, pour terminer avec la question de Scar des Cavignong qui parle de l'hostilité entre la garde parc et la population au parc de Virunga. Il y a certains gardes qui sont en complicité avec certains braconniers pour commettre des forfaits, tuer certains animaux.
Oui, je crois que ça c'est une bonne révélation, mais nous aimerions qu'il aille jusqu'au bout. Nous sommes des responsables. Si monsieur Kasereka peut nous faire même un courrier privé en nous désignant certains de ses gardes, ça serait beaucoup plus important parce que nous sommes là, non pas pour favoriser qu'il y ait de telles complicités, mais pour sévir. Cavignong, c'est vraiment un enclave, comme il dit, qui est dans des zones de pêche autour du lac Édouard. Il peut y avoir quelques hostilités dues, par exemple, au fait que les gardes nous chassons les gens qui pêchent dans le frayeur. Parce que cela empêche effectivement la reproduction des poissons. Mais le bois mort, nous avons des jours. On les autorise pendant quelques jours de la semaine à entrer dans le parc pour ramasser le bois mort et pas tous les jours de la semaine et à n'importe comment. Parce que
c'est ça qui crée le conflit.
Un parc qui est contrôlé. Non, c'est juste un principe, respecter les dispositions qui sont prises dès qu'on met un accord. Il a parlé au début du comité de comité de consultation ou de comité de dialogue entre le parc et les communautés. Nous les faisons. Nous protégeons pour notre population. On ne peut pas sévir la population. Même quand il parle de cas de viol, effectivement, j'ai été sur terrain et il sait très bien que nous avons été tous surpris désagréablement d'aller trouver dans le centre hospitalier qu'il n'y avait même pas une seule femme violée. On ne nie pas dans cette région, avec tout ce qui se passe, qu'il y ait eu des femmes violées. Mais dans des cas d'espèce, nous devons aussi faire attention de ne pas avancer ces types d'allégations
qui ne sont pas vérifiées après.
Voilà, c'est ça un problème. On a payé ça, on n'a pas vu de femmes violées.
Monsieur Kosuma Wilongola, on va s'arrêter vers ici. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. On retient que pour protéger la vie sauvage en RDC, il faut renforcer la sécurité au niveau de nos parcs. Merci et à la prochaine.
Merci.